Et l'invité du grand entretien du 7-9 est aujourd'hui l'ancien ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique de François Hollande, poste qu'il occupa de 2012 à 2014. Il est aujourd'hui entrepreneur et répondra à vos questions dans une dizaine de minutes. Le standard 01 45 24 7000, passé autrement par les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter. Bonjour Arnaud Montebourg.
Bonjour Nicolas Demorand.
Et merci d'être à notre micro ce matin avec donc ces deux casquette d'ancien ministre et de patron, auquel j'en ajoute une troisième, celle de citoyen. Pour commencer, Arnaud Montebourg, dites-nous comment vous avez traversé ces trois derniers mois, le confinement inédit, le déconfinement progressif et désormais la crise économique. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette période? Qu'avez-vous appris? Qu'est-ce que ce moment a changé en vous?
D'abord, je trouve que la France a fait la démonstration, et on était tous plongés, où que nous soyons, dans cette espèce de revalorisation de l'entraide, du retour du collectif. C'est-à-dire que cet individualisme, presque anarcho-individualisme, hein, du moi-roi, a cédé le pas qu'est-ce qui compte le plus quand on est ensemble. Et par exemple, dans ce pays, on a redécouvert la hiérarchie sociale inversée. Plus on est utile, moins on est payé. Et tous ces gens qui avaient été traités par le président de la République de rien, ce sont eux qui ont fait tourner la France. Beaucoup de femmes, les caissières dans les supermarchés, qui exposaient leur vie. Les soignants, évidemment. Je parle des postiers, des éboueurs, tous ces emplois dont on ne parle jamais, qui sont, j'allais dire, presque dans l'invisibilité économique. Pourtant, ont été fondamentaux. Donc, si vous voulez, le corps social a gagné en cohésion. Et on a tous participé à ça. On a donné du miel à nos hôpitaux en Bourgogne, aux postiers qui faisaient le travail, aux logisticiens, enfin bref. Tout ça montre que la France a des ressources considérables dans une période extrêmement dure. Parce que si on fait le bilan, c'est 30 000 morts, quand même, 193 milliards de richesses produites en moins qu'en 2019, chaque Français aura un manque à gagner en moyenne de 2900 euros, compensé pour l'instant en partie, mais il n'est pas certain que ça se... Et peut-être, si on ne fait rien pour l'éviter, 3 millions de chômeurs, c'est la facture de la période.
Alors on va venir évidemment à la gestion de l'aspect économique de la crise. Un mot de la gestion dans son aspect sanitaire. Le New York Times, ça n'est pas parole d'évangile. Mais quand il se penche sur l'action de l'exécutif pendant la crise du Covid, il souligne que la France a repoussé le coronavirus, empêché les licenciements massifs, soutenu les salaires des chômeurs, évité les longues files d'attente pour la nourriture, atteint un taux de mortalité inférieur à celui de ses voisins, à l'exception de l'Allemagne. Fin de citation. Vous avez vu, Arnaud Montebourg, dans cette crise, une humiliation nationale. Et pour la gestion du volet strictement sanitaire, vous dites, en parlant de nos dirigeants, ils sont nuls. Humiliation nationale, que voulez-vous dire par là?
Ben, c'est sûr que quand vous êtes au New York Times et vous vivez ce que vivent les États-Unis avec un Trump au pouvoir, c'est sûr que vous trouvez que la France est formidable. Ça, je le comprends. Mais quand on est français et qu'on a un État qui a soudé les Français autour de buts communs, et que vous voyez que l'État, finalement, s'effondre, est amateur, a organisé un confinement généralisé avec les dégâts économiques considérables, parce que on a été imprévoyant, on n'a pas stocké les masques, on n'avait pas de tests, on a abandonné l'industrie pharmaceutique, on a rationné les Français parce qu'on était limités, les soignants n'ont pas été protégés. C'est pas pour rien qu'il y a des
mille... Mais c'est pas propre à la France, Arnaud Montebourg.
C'est une particularité française d'avoir été mauvais. Et il n'est pas interdit de souhaiter qu'on soit quand même toujours meilleur. Surtout quand le code génétique de la France, c'est l'État. Ben, l'État a été quand même lamentable. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y ait des milliers de plaintes au pénal contre les dirigeants de l'administration et du gouvernement qui feraient pas. J'ai pas dit que c'était une bonne ou mauvaise chose. Je dis simplement que il y a beaucoup de morts qui auraient pu être évitées si on avait organisé autrement la gestion de cette crise sanitaire. À force d'organiser la défaillance de l'État, bah, l'État, il est défait quand il doit se battre. Et c'est ce qui s'est passé.
C'est pas facile à dire, beaucoup plus d'ailleurs après.
Je ne sais pas ce qui est facile. Ce que je sais, c'est que beaucoup de Français ont vécu cette période comme étant celle de l'inorganisation, de l'amateurisme. Enfin, expliquer quand même que, alors qu'une recommandation mondiale de l'OMS, il faut porter les masques, le directeur général de la santé a expliqué qu'il fallait, qu'il y avait des pays qui avaient des traditions de masques, comme si c'était un folklore. On quand même, les Français ont des questions à se poser.
Donc vous maintenez que vous avez trouvé cette gestion de crise nulle?
Je le crains, oui, monsieur Demorand, j'en suis désolé.
Alors venons-en au volet économique. Bruno Le Maire, cette semaine, a présenté la somme de ce que l'État a mis sur la table pour lutter contre les effets de la crise. 460 milliards en tout, qui comprennent des plans de soutien à des pans entiers de l'économie, aéronautique, automobile, nouvelles technologies, tourisme, culture et j'en passe. Est-ce que vous reconnaissez là, sur le plan de l'action économique, est-ce que vous reconnaissez que le gouvernement a bien agi de manière massive? Est-ce que vous donnez votre satisfecit?
Alors, sur la question du chômage partiel, c'est ce qu'il fallait à l'évidence faire. Pourquoi? Parce que éviter que les entreprises s'écroulent, conserver les savoir-faire dans les entreprises, éviter, protéger les gens et protéger les revenus des gens, c'est très important pour éviter qu'on entre dans la spirale dépressive. Les leçons de la crise de 2008 ont été enregistrées. Je rappelle que l'Allemagne avait fait 10 fois plus de chômage partiel et a eu beaucoup moins de chômeurs que nous. Donc c'est donc qu'on a tiré les leçons. Mais maintenant le problème, c'est est-ce que tout cela va nous éviter à la fin de, j'allais dire, de la du chômage partiel, c'est-à-dire où on est insensibilisé à l'écroulement économique qui se prépare. Je rappelle que il y a un consensus à peu près entre les économistes pour dire qu'on est à moins 11% de PIB. C'est du jamais vu en temps de paix depuis 1876. Donc c'est quelque chose d'absolument nouveau et qui va être un choc considérable. Et notre problème, c'est quand je regarde les chiffres, l'Allemagne annonce dépenser l'équivalent de 25% de sa richesse nationale. Pour nous, c'est 7 fois moins. 7 fois moins.
Donc il n'y a pas assez d'argent sur la table.
Je vais nuancer un point. C'est 7 fois plus d'argent dépensé pour 2 fois moins de dégâts économiques. Donc on risque de prendre très cher dans la période actuelle. Et deuxième analyse, il faut savoir que l'Allemagne a pris 52% de toutes les dépenses publiques, des interventions publiques dans la zone euro. C'est-à-dire qu'elle a fait la moitié. Donc ça montre bien, nous on est à 17%. Ça c'est les chiffres de Bruxelles. Donc ça montre bien que, à mon avis, on n'est pas au niveau de ce qui se prépare. Deuxième élément, vous avez beaucoup d'entreprises à qui on propose des prêts. Donc en fait, on est en train de surendetter toute l'économie. Donc vous avez 100 milliards de prêts garantis de l'État qui se baladent dans les bilans des entreprises maintenant. Moi-même, nous avons, avec mon équipe, dans les petites entreprises qu'on a créées, on n'a pas pris ces prêts parce qu'on se dit, mais comment on va les rembourser? Comment on va payer bientôt les loyers qui vont revenir, le prêt qu'on avait contracté avant, les cotisations sociales? Et c'est là qu'on va arriver au mur. Au mur de comment on fait pour garder tout le personnel.
Mais on entend vos critiques, Arnaud Montebourg. Qu'auriez-vous fait à leur place?
Eh bien, d'abord, chômage partiel, je pense qu'il faut le prolonger autant que possible.
Ça, vous l'avez dit, donc il faut
point 1. Point 2, il faudrait...
Et au même niveau?
Il faudrait que nous allions sur des fonds propres. Les entreprises n'ont pas besoin d'aide supplémentaire. On est en train de fabriquer des entreprises zombies, mort-vivantes, surendettées, et qui finiront par mourir. On a besoin de fonds propres, c'est-à-dire de renforcement. On a besoin, pour ça, d'un outil complètement nouveau. Au lieu de faire des prêts, il faut faire des subventions dans les toutes petites entreprises. Dans les PME, il faut faire ce qu'on appelle des obligations convertibles. C'est-à-dire, c'est un prêt, et si vous remboursez pas, on le convertit en capital. Et là, les entreprises, elles sortent renforcées de la crise. Elles peuvent tenir leur perte de trésorerie. Et les grandes entreprises, on a fait des prêts. À chaque fois que vous avez un plan de relance sectoriel, on fait des prêts. Des prêts. Mais comment on va rembourser tout ça?
Quand la dette privée repart, non?
Avec quel revenu? Les revenus, ils sont pas magiques. Ils vont, on en a pour un an et demi, deux ans, d'après ce qu'on voit lentement l'économie remonter. Donc ça, c'est très embêtant. Et je dois dire, par exemple, dans les grandes entreprises, faut prendre des participations. Quitte, et c'est ma proposition, je la fais à votre micro, monsieur Demorand, je pense que ces participations, l'État n'a pas vocation à être présent dans toutes les entreprises de l'économie. En revanche, on pourrait imaginer que le ministre de l'économie dise, les prêts, on les convertit en fonds propres, et ces fonds propres, ces participations-là, seront redistribués aux salariés. C'est-à-dire qu'en fait, on peut amener les salariés à redevenir copropriétaires de leur entreprise, participer à la gestion future et au redressement de leurs entreprises, aussi participer, quand elles seront à meilleure fortune, au partage de la richesse, et puis pourquoi pas à la gestion, pendant qu'on y est, dans les conseils d'administration,
mais
là où c'est possible.
Il y a, notamment sur l'écologie, Arnaud Montebourg, il y a des formes de donnant-donnant. on donne à Air France contre un certain nombre d'engagements en termes écologiques pour cette entreprise. Donc vous ne pensez pas que cette mécanique donnant-donnant n'est pas déjà mise en œuvre ?
Ben, écoutez, heureusement, si vous donnez 8 milliards à une entreprise, c'est pour qu'il y ait des contreparties. Et ça, c'est normal. J'ai envie de dire, il n'y a rien d'original. La question, c'est comment on va arriver à sauver notre économie et protéger les revenus des gens et sauver nos entreprises. Parce que pour le moment, les chefs d'entreprise, les syndicats, les salariés se posent tous des questions. Ils regardent le chiffre d'affaires, ils disent, mais comment on va faire si l'entreprise est déficitaire pour ne pas la perdre ? Et c'est ça qui me préoccupe. Je voudrais ajouter que, par ailleurs, il faut préparer l'avenir. C'est pas parce que on a une situation d'urgence avec des risques d'explosion du chômage qu'il ne faut pas en profiter à chaque fois qu'on investit dans les entreprises pour ne pas préparer l'avenir. Là aussi, la question du Made in France, qui est un mouvement de société, les Français, ils votent en achetant, hein, ils font des choix presque politiques, voyez. Mais il n'y a pas de politique du Made in France. Comment relocaliser sur le territoire les usines qui sont parties en Asie? C'est un sujet important. La mondialisation, c'est un prix mondial. Donc la France n'est pas compétitive. C'est pour ça qu'on a délocalisé à 10 000 kilomètres. Et comment fait-on pour le faire ? Les Japonais, vous savez ce qu'ils font ? Le gouvernement japonais fait a mis 2 milliards sur la table pour rembourser les investissements de fermeture en Chine et de réouverture sur le territoire national au Japon. C'est ce qu'il faudrait faire. Par exemple, on peut imaginer par ailleurs, là où nous avons été en situation de dépendance, par exemple sanitaire et pharmaceutique, imaginer des coopératives, c'est un hybride d'une coopérative, ce n'est ni public ni privé, c'est au milieu, on peut mettre l'État dans la coopérative, avec la sécurité sociale, les mutuelles qui se portent pas si mal dans la période actuelle. Est-ce que on pourrait imaginer des coopératives de fabrication de médicaments pour relocaliser sur le territoire ? Autre proposition, nous pouvons utiliser enfin la commande publique. La commande publique a été utilisée pour favoriser la Chine dans les achats hospitaliers. J'en sais quelque chose, on peut le voir quand même. Et les Français maintenant l'ont compris. Donc ce travail-là, c'est une remise en ordre d'un État qui finalement va prendre sa part dans la direction de l'économie.
Emmanuel Macron, dans ses différentes allocutions pendant la crise, a défendu lui aussi l'idée de souveraineté européenne, de souveraineté nationale. Il a formulé une critique sévère de certains aspects de la mondialisation. Il a défendu, vanté les services publics français. Dans vos propos, certains mots résonnent d'ailleurs à tous les deux. Est-ce que vous lui en donnez acte au président de la République?
Ben, écoutez, moi, on peut donner acte de tous les discours. Ce qui compte pour moi, les discours n'ont aucune valeur, ce sont les actes. Comment peut-on faire confiance à une équipe qui a vendu Technip aux Américains, qui est quand même un fleuron industriel, Alstom aux Américains, qui a abandonné Lafarge, Alcatel, comment la TCOR, comment peut-on faire confiance? Ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce que moi, j'ai laissé à mon honorable successeur, Emmanuel Macron, en 2014, qui est arrivé au pouvoir en 2014. Donc ça fait quand même maintenant quelques années qu'il a les manettes. Eh bien, des plans industriels sur la batterie électrique. La batterie électrique, c'est un sous-ensemble critique de puissance qui est l'essentiel de la valeur du véhicule électrique. Au bout de 4 ou 5 ans, j'ai rappelé les personnes avec qui j'avais travaillé sur ce plan, cette planification, où il y avait de l'argent public, de la recherche publique, de l'argent privé, de la recherche privée. Et les constructeurs autour de la table, rien n'a été fait. Donc aujourd'hui, on nous fait un plan batterie pour que la batterie soit européenne. Mais maintenant, la batterie, elle est tenue par les Chinois. Donc nous sommes dépendants des Chinois sur la batterie électrique. Si vous voulez, il y a du temps qui a été perdu.
Oui, mais
Il y a des occasions qui n'ont pas été saisies.
Est-ce que vous ne pensez pas, Arnaud Montebourg, qu'un homme politique peut changer aussi?
Mais je écoutez,
apprendre face aux événements, on peut pas dire que l'événement qui est tombé sur le monde était un événement prévisible, c'était totalement inédit. Donc sous le coup des circonstances, quelqu'un peut-il changer?
Mais bien sûr, heureusement d'ailleurs. La question n'est pas tout à fait celle-là, c'est que nous sommes dans une mauvaise passe. La France est quand même dans une situation d'affaissement. Et il va falloir, là, que les projets que nous allons construire soient des projets qui rassemblent tous les Français. Donc il va falloir que les dirigeants politiques soient capables de le faire et soient convaincants. Voilà, je suis en train de vous dire que je suis pas convaincu par les discours. Je crois que j'ai encore ce droit-là, monsieur de Morand, de ne pas l'être.
Il doit s'exprimer dimanche soir, Emmanuel Macron. Quels mots, quels actes attendez-vous de lui?
Je ne sais pas, moi je ne suis pas là pour commenter les faits et gestes du président de la République.
Non, mais je vous pose une question.
J'essaie d'être contributif dans ce débat, d'apporter des propositions. Je crois qu'il y a beaucoup à faire. Et surtout, il va falloir qu'on se serre les coudes et qu'on s'unisse autour de la reconstruction y compris écologique de notre économie. Et pour moi, ça passe par, je vais vous dire franchement, le système économique tel qu'il a fonctionné avec la financiarisation du capitalisme, tel qu'il a pris sa dernière tournure, celui-là ne pourra pas survivre. Nous allons être obligés d'imaginer une nouvelle économie, un nouveau modèle productif, où il va falloir imaginer un partage à l'intérieur de l'entreprise. Et ça veut dire qu'il faut imaginer l'entreprise de demain. Ça a été fait par le rapport Nota-Sénart, mais il n'y a pas eu de suite vraiment concrète. Donc ça, c'est finalement, on doit amener un message finalement à la droite. À la droite, il faut lui dire, écoutez, on peut pas continuer avec un système prédateur sur le plan financier, actionnarial et distributeur de dividendes. On est obligé maintenant de mettre les salariés dans les conseils d'administration, donner du capital aux salariés et partager. Et puis en même temps, à la gauche, on peut dire, on va pas pouvoir transformer la société exclusivement par la redistribution. Il va falloir maintenant s'intéresser au cœur de la création de richesse, c'est-à-dire l'entreprise. C'est là qu'il va falloir partager différemment les richesses, payer différemment les gens, réévaluer la hiérarchie sociale, finalement, ce qu'on disait tout à l'heure.
On va passer au standard de France Inter. Les auditeurs sont très nombreux. J'ai beaucoup de questions aussi encore à vous poser, évidemment, Arnaud Montebourg. La parole à Monique. Monique, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Damoran.
Bonjour, madame.
Monsieur de Montebourg.
Bonjour, madame.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Alors, moi, j'avais une question. Vous aviez, monsieur de Montebourg, accordé en 2012 l'implantation des entrepôts Amazon sur Chalon-sur-Saône, et vous étiez à l'époque très fier d'annoncer la création de 200 emplois. Pensez-vous aujourd'hui que 200 emplois précaires justifient l'implantation d'une société qui appartient au GAFA, c'est-à-dire qui ne paye pas d'impôts, et qui met en péril de très nombreux commerces locaux et nationaux?
Alors, merci Monique pour cette question. Arnaud Montebourg vous répond.
Merci madame, je ne m'appelle pas monsieur de Montebourg. Je m'appelle Arnaud Montebourg. Mon grand-père s'appelait Henri Montebourg. Il était boucher à Autun en Saône-et-Loire. Et c'est en Saône-et-Loire en effet que Amazon a implanté un entrepôt. Alors ce ne sont pas des emplois précaires. Il y a des emplois saisonniers, mais il y a aussi des emplois en CDI dans cet entrepôt. Bah, écoutez, j'ai entendu qu'il y avait une proposition qui consistait à dire qu'il fallait supprimer tous les entrepôts Amazon. Bah c'est très bien. Donc Amazon va distribuer depuis l'Allemagne, depuis l'Italie, depuis je ne sais où, l'Espagne. Donc on va se priver des emplois alors que la montée de la logistique existe. C'est une demande de la société, y compris la Poste en profite, puisque la Poste travaille aussi également avec Amazon. Alors, est-ce que il faut néanmoins tolérer que les GAFA, comme vous le dites à juste titre, ne payent pas d'impôts? Non. La prédation numérique américaine doit cesser. De ce point de vue-là...
Comment?
Y a beaucoup de propositions qui sont sur la table au plan européen, et même beaucoup d'économistes...
Vous voyez un Facebook européen arriver? Vous voyez un...
Non, mais
Apple,
c'est impossible maintenant.
Ben, voilà.
C'est impossible maintenant. En revanche...
Donc, dire faisons la souveraineté numérique, c'est un mot...
Pas tout à fait, parce qu'on est capable d'abord déjà de faire rémunérer nos données personnelles. Toutes les données personnelles qu'on offre gratuitement, c'est de l'or numérique, qu'on offre gratuitement aux prédateurs numériques, eh bien, on pourrait déjà les faire payer, premièrement. Deuxièmement, la contribution des GAFA à l'économie n'est toujours pas au niveau de ce que nous pouvons espérer. Donc là aussi, une politique fiscale qui peut intervenir. Enfin, et y compris quand vous avez les fondateurs de Facebook qui disent « je suis pour le démantèlement de Facebook », ça montre bien qu'il y a 51, j'ai oublié ce détail, il y a 51 procureurs des États fédérés des États-Unis qui ont ouvert des procédures antitrust contre certains GAFA. Là aussi, le vent a tourné. Donc nous pouvons imaginer, nous, Européens, de maîtriser la donnée et de bâtir, en effet, des concurrents, comme les Chinois l'ont fait d'ailleurs, en utilisant des barrières et des protections.
Un mot rapide sur cette petite musique qui monte et qui est donc de plus en plus audible, qui indique que pour maintenir l'emploi, les salariés pourraient devoir consentir des baisses de salaire. Est-ce que ce deal, ce donnant-donnant, vous semble acceptable aujourd'hui en situation de crise?
Non, d'abord parce qu'il n'a pas démontré d'efficacité dans le passé. Généralement, quand on commence à demander aux salariés des baisses de salaire, c'est que l'entreprise n'est quand même pas en très grande forme. Et donc, in fine, ils auront accepté les baisses de salaire et ils se retrouveront certainement virés ou au chômage derrière. Donc, franchement, je ne pense pas que ce soit sérieux.
Vous êtes patron, vous faites quoi, vous, dans votre entreprise, si vous voyez baisser le carnet de commandes, l'entreprise vous licenciez ou vous essayez de trouver un accord
C'est très simple, on va se réunir. Puis on va traiter le problème ensemble déjà, on va commencer à le faire ensemble. Donc déjà, ça ne peut fonctionner que si tout le monde prend en compte les problèmes de l'entreprise. C'est-à-dire que finalement, les problèmes du salarié, les problèmes du chef d'entreprise, c'est les mêmes. Parce qu'on a un outil qui nous permet de vivre ensemble, hein, de vivre, d'en vivre. Et puis ensuite, non, on baisse pas les salaires. Moi, je ne considère pas que ce soit une bonne politique. Pourquoi ? Parce qu'un salarié, déjà, qui n'est pas suffisamment... dans ce cas-là, il faut trancher et il faudra ajuster. Voilà.
Retour au standard, Denis nous appelle de la belle ville de Metz. Bonjour Denis.
Oui, bonjour France Inter, merci de prendre ma question. Bonjour Monsieur Montebourg.
Bonjour Monsieur.
Je vais très vite, parce qu'on m'a dit de faire très vite.
Ce serait gentil.
Je fais partie d'un mouvement de gauche, progressiste, etc., depuis que je suis tout petit. Moi non plus, je suis pas convaincu par des discours et peut-être aussi même par des écrits. Moi, je pose la question aujourd'hui à Arnaud Montebourg, la question suivante, qui taraude beaucoup de gens, hein, parce qu'il y a
allez-y, Denis.
De la politique. Qu'est-ce qui manque, selon lui, à la mouvance en France, dite de gauche ou progressiste, pour se rassembler? Qu'est-ce qui manque?
Merci, Denis. Merci, Denis, pour cette question. Arnaud Montebourg vous répond.
Je vais vous dire que on ne sait pas plus ce que c'est que la gauche. La gauche a fait une politique de droite, j'en sais quelque chose, j'ai quitté le gouvernement sur des désaccords extrêmement profonds, et la gauche a enfanté Emmanuel Macron. Donc expliquez-moi, c'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui des désaccords extrêmement forts et clivants. Par ailleurs, la question européenne reste tout à fait divisante, si je peux employer cette expression, entre les différentes sensibilités. D'ailleurs, elle coupe en deux tous les partis politiques aujourd'hui. Donc, certains disent.
Vous allez faire quoi d'ici 2022, Arnaud Montebourg? Il y a un éléphant dans ce studio.
Un éléphant, il est où?
Acceptons, entre nous, acceptons de le traiter. Qu'est-ce que vous ferez, vous, d'ici 2022, si, pour le dire avec les mots de Jean-Luc Mélenchon, le drapeau de la gauche est à terre, est-ce que vous irez le relever?
Écoutez, je vais vous répondre très sincèrement. D'abord, je ne sais pas. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je suis engagé à titre personnel. Moi, ma vie est une et indivisible. Je suis engagé politiquement. Je suis engagé dans les entreprises que j'ai créées, dans les marques alimentaires équitables que vous connaissez. Donc, j'ai quand même à faire tourner la marmite.
Vous ne savez pas, mais y pensez-vous, Arnaud Montebourg?
Écoutez, cette question, évidemment, tous les jours, on me pose la question que vous me posez tous les jours dans la rue, le métro, dans le train. Les gens me disent alors,
vous avez une réponse.
Donc moi, ma réponse, c'est de dire, moi, je défends depuis des années des idées. À chaque fois que ces idées sont portées, je suis content de pouvoir appuyer. Et donc, j'espère pouvoir soutenir quelqu'un qui défendra ses propositions. Voilà, c'est ça.
Donc,
c'est
vous.
Mon idéal.
Donc, pas vous.
C'est mon idéal. Je préférerais. Ouais. Voilà. Ce serait ma préférence.
Sinon,
on en reparlera dans un an.
Oui, donc c'est ouvert, hein.
Écoutez, réinvitez-moi dans un an, je vous dirai où j'en suis. Mais pour l'instant, je ne sais
pas.
Je ne peux pas vous répondre.
Dans un an?
Écoutez, je ne sais pas, monsieur Demorand, c'est difficile. J'ai pris un chemin, qui est un chemin, très intéressant, de retourner dans la société, de construire, d'apporter des preuves. Quand on a fait Bleu Blanc Ruche, on a fait la démonstration qu'on pouvait faire du Made in France. Là, on lance d'autres produits, projets. Là aussi, c'est le Made in France. Voilà.
Mais vous présentez.
Est-ce que mon passé va me rattraper? Je n'en sais rien. Pour l'instant.
Peut-être.
Pour l'instant, je construis le futur avec mes choix d'aujourd'hui.
Merci Arnaud Montebourg et pas de Montebourg.
Merci,
d'avoir été
cher ami. Merci
au micro
beaucoup.
De France Inter et peut-être.
À l'année prochaine.
Oui, voilà, à l'année prochaine en tout cas, ou avant, quand vous aurez les réponses aux questions politiques que je vous ai posées.
Merci.